Hello, moi c'est Héloïse. En 2022, je suis partie faire un long voyage en famille avec mon mari, Daniel, et mes trois filles, Swan, 13 ans, June, 10 ans, et Violette, 7 ans. On n'avait pas vraiment l'habitude de voyager en famille avant ce projet, mais l'opportunité s'est présentée et on l'a saisie. Dans ce podcast, je raconte les différentes étapes de notre voyage, pas tant du point de vue des destinations, mais plutôt au travers des expériences que nous avons vécues. De l'Afrique à l'Asie jusqu'en Amérique du Sud, en passant par l'Océanie, je vous partage nos ressentis, nos émotions et les forces qui ont émergé pendant cette aventure. Ce voyage nous a changés. Venez écouter comment. Un petit tour et puis changeons. Bolivie, deuxième partie. Les effets de l'altitude sont assez modérés, donc ça nous rassure. Pour le moment, il y a juste quelques maux de tête, donc on prend un peu de Doliprane. Et moi, par contre, j'ai un symptôme un peu inattendu, c'est que j'ai une perte d'appétit qui est assez importante et qui dure à peu près 2 semaines. D'ailleurs, on rencontre un couple de Français à la chambre d'hôte un des premiers soirs. Ils sont là sur la fin d'un long voyage, ils ont voyagé 7 mois et eux, ils s'apprêtent à reprendre le vol pour aller en France. Donc ils sont dans un état d'excitation assez palpable et nous, ça commence à nous titiller un peu. On se dit « Ah ouais, c'est comme ça, peut-être qu'on se sentira dans 2 mois quand il sera temps de rentrer. » Et toujours est-il qu'ils sont en train de refaire leur sac avant de partir et ils nous donnent du Diamox, qui est le médicament contre le mal des montagnes. Et notamment, la jeune femme, elle a eu un gros mal des montagnes et elle dit « Bon, c'est quand même mieux d'avoir ça dans le sac. » Et elle nous explique la posologie en cas de besoin. Donc nous, on prend le Diamox en se disant, on verra bien si ça nous rend service. Ce qui est sympa, c'est qu'ils nous redisent tout ce qu'ils ont fait. Alors eux, c'est un couple, ils ont l'air assez actifs, donc ils ont visité tout un tas de choses. Bon, moi, je prends des notes dans mon petit carnet, mais ce qu'on retient, c'est qu'il y a un resto gastronomique à faire à Sucré. Et c'est un resto gastronomique qui est quand même d'un bon niveau, mais niveau tarif, qui n'a rien à voir avec ce qu'on a en France. C'est 25 euros par tête. Et là, on se dit que c'est quand même une chouette expérience à vivre. Donc, on envoie un WhatsApp au restaurant et on réserve pour le lendemain soir une table pour 5. On arrive au restaurant de bonne heure. Moi, j'ai réservé pour 18h30 parce que je sais que ça peut être long. Et en fait, nous, on n'a pas l'habitude de se coucher tard. On se couche au plus tard à 20h. Et là, sachant que le repas peut durer jusqu'à 2h, qu'on est avec nos enfants et qu'on veut aussi que ça soit calme dans le restaurant, en tout cas qu'ils gardent leur calme, on y est allé très tôt. Mais alors le plus drôle, c'est la tenue dans laquelle on arrive, c'est qu'on a tous enfilé toutes les couches possibles qu'on a achetées. Et bon, ça fait un petit peu déguisement, quoi. Donc entre les polaires seconde main, les bonnets de toutes les couleurs et les pulls Mickey, qu'est-ce qu'on rigole. Et c'est sûr que si on était sorti en restaurant gastronomique en France, on ne serait pas habillé de la même façon. Il y a une ambiance vraiment particulière, je dirais joyeuse et excitée. Les filles, elles se demandent comment ça va se passer. Elles ont eu l'occasion une fois de venir dans un restaurant gastronomique avec nous en France. Et là, elles sont toutes sages, elles regardent ce qui se passe et elles font vraiment attention à la manière de se tenir à table. Le dîner se passe dans une ambiance tout aussi particulière où on fait très attention et les enfants goûtent chacun des plats, même si ça ne leur fait pas envie ou l'ingrédient elles n'aiment pas. On a pris 4 plats pour 5 pour que June et Violette partagent le leur. Et à chaque fin de dégustation, on se dit, on fait un système de notation. On se dit, moi ce plat, je lui donne 8 sur 10 pour la présentation, pour le goût. Et puis c'est vraiment lié aux appétences des uns et des autres. Et c'est hyper rigolo de vivre ça tous ensemble, d'autant qu'on goûte des choses assez étonnantes, comme de la queue de caïman, ou encore une panna cotta de chou-fleur en dessert, mais qui est excellente.
Violette, tu mets combien ?
J'ai mis entre 8 et 5. Mais 7 6 sur 5. Entre 7 et 6.
Ok, merci.
8,5. C'est presque entre 7 et 6.
Après cette super soirée, on rentre dans un froid polaire. On a à peu près 25 minutes de marche pour retourner à la chambre d'hôte. Et là, les enfants, c'est un petit peu difficile. Donc, sur les prochains jours, on se débrouillera le soir pour faire du take-away ou aller commander des pizzas à côté, de manière à ce qu'il n'y ait pas besoin de bouger. Parce que les filles, une fois que la nuit tombe, elles ont vraiment froid et elles ont envie d'être sous leur couette en train de faire leurs devoirs ou de bouquiner. Le dernier jour, on prend un bus pour sortir de la ville et aller visiter une cimenterie dans laquelle des ouvriers ont mis en lumière, dans les années 60, des traces de dinosaures. Et elles ont été identifiées par des paléontologues, bien sûr. Il y en a 12 000 des traces. Et avec le mouvement des plaques tectoniques, le sol est remonté à la verticale, formant des parois où on voit toutes ces traces en forme de cheminement. Et donc, on va visiter ce site avec le musée, avec les enfants. Et moi, je trouve ça extrêmement émouvant parce qu'on voit très bien ces traces de dinosaures et on peut s'imaginer la grandeur de ces animaux, de ces bêtes à l'époque, et de se dire que ça date d'il y a si longtemps et qu'on puisse le voir, presque le toucher, ça nous paraît extraordinaire. Après, on se dit aussi qu'on a beaucoup de chance de voir ça en Bolivie, parce qu'on n'est pas du tout sur les normes de protection, de sécurité qu'on aurait en France. On pourrait presque les toucher, ces traces au pied des falaises, là où en France, il y aurait des périmètres de protection pas possibles, voire ce serait des reproductions de traces. Mais alors là, on est en Bolivie, donc tout ça, c'est à l'air libre. Notre prochaine destination, c'est Potosi, une ville qui est plus au sud de la Bolivie. Et notre parcours, il est guidé par une seule chose, un seul objectif, c'est qu'on veut aller visiter le Salar d'Uyuni, c'est-à-dire le grand désert de sel qui est au sud de la Bolivie. Ça, c'est vraiment la seule chose qu'on planifie, parce que moi, j'ai identifié sur le réseau Facebook un guide qui a l'air vraiment top, parce que c'est ça aussi, hein, quand on est loin et qu'on réserve des guides à l'avance, comment savoir s'ils sont bons ou pas. Et là, j'ai identifié ce guide qui s'appelle Milton, et j'ai pris contact avant-hier, on a échangé par WhatsApp, on ne s'est même pas parlé, on s'est mis d'accord sur un programme, un prix, et on s'est donné rendez-vous le 2 juin pour partir en excursion avec lui pendant 4 nuits et 3 jours. Donc nous, on a une petite semaine pour se rendre tranquillement vers le point de départ de cette excursion de 4 jours, ce qui fait que ça nous conduit à descendre à la prochaine étape de Potosi. Donc là, c'est reparti, on va au terminal de bus en fin de matinée. Et c'est vrai qu'on est beaucoup moins impressionné par toute cette foule qui nous harangue pour acheter les billets de bus. Camille nous a conseillé sur la compagnie qu'il fallait prendre pour aller à Potosi, parce que là, on est sur un trajet de 4 heures, donc ça sera un trajet de jour. Et par contre, il n'y aura pas de toilette, ça c'est sûr. Donc ça, c'est le seul truc qui nous angoisse. Donc moi, je fais faire pipi aux enfants 3 fois avant de partir. Et surtout, je leur demande de boire très peu d'eau jusqu'à ce qu'on arrive à la fin du trajet en bus. Ça, c'est le côté aussi imprévisible avec ces compagnies. On ne sait jamais trop à quelle heure on part, à quelle heure on arrive et quand est-ce que sera la pause technique. Donc, on essaye d'anticiper un maximum. On achète nos billets sur place pour l'après-midi même. On se prend des empanadas à emporter d'une dame qui les cuit à côté. Et puis voilà, on s'installe tranquillement dans la gare routière jusqu'à ce qu'il soit l'heure de partir. Le trajet est sympa parce que c'est 2 jours. Et là, on continue à monter en altitude. Et on voit ces paysages qui commencent à être magnifiques, assez paumés quoi, dans les villages. Et c'est vrai que quand on arrive à Potosi, qu'on descend du bus, là, ce qui nous saute à la figure, c'est l'odeur des pots d'échappement. Il y a une circulation routière qui est très très intense. Les bus, ils crachent des fumées noires et c'est très oppressant au niveau des odeurs et de la sensation de s'étouffer quoi, au niveau de la gorge. La bonne nouvelle, c'est que cette fois-ci, on a choisi un hôtel qui promettait du chauffage dans les chambres et c'est le cas. Et ça nous fait un bien fou d'arriver dans ces chambres d'hôtel qui sont chaudes où on peut se mettre en chaussettes, sur la moquette sans avoir froid. Et puis surtout, il y a un restaurant dans l'hôtel au rez-de-chaussée. Alors c'est vraiment un tout petit restaurant. Mais pour nous, c'est vraiment important pour ne pas avoir à sortir le soir en ville pour aller dîner parce que les enfants ont eu trop froid à Sucré. Donc on a trouvé cette solution pour pouvoir descendre dîner dans l'hôtel, surtout ne pas les faire attendre, c'est-à-dire qu'elles descendent commander leur plat et puis on va les chercher dans leur chambre quand c'est prêt. Et nous, pendant ce temps-là, on se prend une petite bière, ce qui nous permet aussi d'avoir un moment de détente tous les deux, où tout le monde est content. À Potosi, on prend aussi le temps de découvrir la ville et de vivre tranquillement. Et la ville nous plaît beaucoup. Elle est très agréable parce qu'elle est jolie. Il y a beaucoup de choses qui s'y passent. En fait, nous, on observe la vie pendant qu'on se balade et c'est hyper captivant. On regarde les vendeurs ambulants, donc on va acheter aussi des petits chouchous à la dame qui fait griller ses cacahuètes, du jus de fruits au type qui presse ses agrumes sur la place principale. On achète aussi des guimauves en chocolat qui sont vendues par un petit garçon. Et puis on observe tout le jeu des écoliers qui vont à l'école, qui en ressortent, ils sont en uniforme, ils vont jouer au baby-foot après l'école. Enfin, c'est hyper sympa d'observer tout ça et de prendre le temps. Là, il y a encore des fanfares. On se dit que finalement, c'est la fête tout le temps en Bolivie. Donc, il y a des défilés, des fanfares d'école. En fait, c'est la fin d'année scolaire, donc les écoles défilent et célèbrent le début des grandes vacances. À Potosi, on sait qu'il y a quelque chose d'important, c'est qu'il y a énormément de mines d'argent et ce sont des mines qui sont toujours en activité et qu'il y a même des sorties touristiques qui sont organisées dans ces mines. Alors nous, sincèrement, ça ne nous attire pas du tout, même si on a lu que c'était plutôt pas mal fait, mais moi je n'ai pas du tout envie d'y aller parce qu'il y a même des simulations où les touristes qui sont habillés en combinaison de mineurs vont allumer un bâton de dynamite et voir comment ça fait. Moi, sincèrement, ça me dit trop rien. Et puis, voilà, me dire d'aller observer des gens dans leur environnement de travail alors qu'ils sont très jeunes et qu'ils travaillent dans des conditions qui sont extrêmement difficiles, vraiment, éthiquement, ça n'est pas possible. Pour autant, ce qu'on fait pour en apprendre un peu plus sur l'histoire de la ville, c'est qu'on va au musée de la Monnaie et là, on s'inscrit sur une visite guidée de l'après-midi avec une dame qui parle français. Parce que de toute façon, ce musée, il ne se visite qu'avec un guide. Et là, c'est génial parce qu'on apprend tout un tas de choses et notamment que Potosi était une ville centre économique d'envergure entre le 16e et le 18e siècle à l'ère des colons espagnols et que c'est une ville qui brillait par ses ressources et qui frappait la monnaie de l'Espagne et de tous les pays d'Amérique du Sud. Donc elle a vraiment eu une place prépondérante dans cette économie. Et ce qu'il y a, c'est comme dans beaucoup de cas de colonialisme, c'est qu'une fois que les ressources ont été épuisées ou ont bien diminué, et ben les colons sont partis et puis ont laissé le pays appauvri de ses minerais. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on constate à Potosi, c'est qu'on sent qu'il y a une histoire qui est vraiment présente, mais qu'économiquement, c'est la misère, quoi. En tout cas, lors de la visite, la guide, elle met en avant aussi toutes les personnes qui ont travaillé pour frapper la monnaie à l'époque, et notamment, il y avait beaucoup d'esclaves d'Afrique qui faisaient venir pour faire tourner ces machines qui pressaient le métal, qui le fondaient, et ces hommes, ils mouraient, parce qu'avec l'attitude, ils ne le supportaient pas, et c'était pareil pour les animaux, ils faisaient venir des ânes ou des chevaux d'ailleurs, et qui ne survivaient pas en lien avec l'altitude. Et donc après, ce qu'ils sont allés faire, c'est aller chercher dans les campagnes des paysans très pauvres boliviens pour pouvoir les faire travailler autour du frappage de la monnaie. Et pareil pour les animaux, où ils faisaient prendre des chevaux et des ânes et les faire s'acclimater petit à petit à l'altitude pour qu'ensuite ils puissent activer toutes ces machines et tous ces rouages mécaniques. Les enfants, ça les marque pas mal d'entendre tout ça et d'entendre que voilà, il y a des gens qui ont été exploités et maltraités pour créer de la richesse pour un pays dans des conditions souvent très difficiles. On quitte Potosi pour aller à Tupiza, qui est le point de départ où on a rendez-vous avec notre guide le lendemain matin à 8h pour le début de notre excursion de 4 jours vers le Salar. Le trajet est paisible, mais je dirais comme à chaque fois qu'on prend le bus. Ça plaît pas mal aux enfants parce qu'elles ont les tablettes qu'elles ont chargées, elles se regardent un film ou elles ont leur iBook pour lire des livres. Et puis nous, on papote, on regarde le paysage, on est sur nos téléphones. Et le paysage, il est extraordinaire. Et plus on se rapproche de Tupiza, plus c'est beau. C'est une ambiance de Far West. Moi, je ne connais pas le Grand Ouest américain, mais j'ai vraiment l'impression que ça doit ressembler à ça. Des grandes montagnes rouges. C'est magnifique. Par contre, la ville, ça fait vraiment un champ de bataille. Je ne sais pas comment décrire cet endroit, mais c'est très, très, très poussiéreux. Une ville quadrillée au bord de la rivière. Aucun intérêt. Et d'ailleurs, quand on se rend compte qu'on dort dans un hôtel qui est complètement à l'extérieur de la ville, on se dit « Ah zut, ça va être la galère pour dîner ce soir ». Et trop rigolo, quand on sort de l'hôtel pour aller chercher un endroit où manger, j'entends des hommes parler espagnol à côté de nous et ils sont en train de nettoyer des 4x4. Et là, je m'approche et je demande si l'un d'eux n'est pas Milton par hasard. Et effectivement, oui. Milton est là, c'est notre guide, il rentre d'une excursion, il est en train de nettoyer son 4x4 pour nous ramener le lendemain. Donc c'est trop rigolo le hasard, et du coup il nous propose de venir nous chercher directement à l'hôtel le lendemain. Ça c'est chouette parce qu'on va pas avoir à se trimballer nos bagages ou à prendre un tuk-tuk pour aller en ville, parce que oui, ici c'est fou, il y a des tuk-tuk. Et puis on file manger un morceau en ville, et là c'est pareil. Fait du hasard, on tombe sur un petit resto hyper sympa, accolé à un petit bar à vin. Et ça a été fait plutôt pour les touristes, mais c'est vrai que l'ambiance est super agréable, il y a une musique sympa et ce qu'on mange est délicieux. Donc on se dit qu'une fois de plus, on a bien été inspiré par notre intuition. On se fait un bon petit déjeuner dans cet hôtel très simple, sans chauffage et avec une eau très tiède, mais on a super bien dormi. Et surtout, au petit déjeuner, on rencontre une famille de Français. Donc, c'est un couple qui vient de Nantes avec leurs 3 enfants. Et eux, leur particularité, c'est qu'ils sont partis d'Ushuaïa en vélo avec leurs enfants, dont le plus jeune a 3 ans. Et ils se sont donné 6 mois pour rejoindre La Paz en Bolivie. Donc là, ils sont à peu près à 5 mois de leur début de voyage. Il leur reste 1 mois pour aller à La Paz. Et moi, je me sens assez admirative de ces gens qui voyagent avec leurs enfants à vélo, sachant que la Bolivie, mais comme tous ces pays d'Amérique du Sud, il fait froid, il y a beaucoup de poussière, il y a des montées. L'altitude en vélo, ça ne doit pas être simple. Mais eux sont hyper contents. Ils ont l'air de gérer ça très bien. Ils sont tout détendus. Donc je suis assez admirative de cette famille qu'on rencontre. On retrouve Milton devant l'hôtel à 8h, comme convenu, et il nous accueille avec son 4x4, c'est un 4x4 7 places. On charge les bagages sur le toit, parce qu'il n'y a pas assez de place dans la voiture, bien sûr. Puis lui, dans le coffre, il a aussi de l'eau, de la nourriture. Et puis on embarque pour ces 4 jours, dont finalement on ne connaît pas trop le contenu, non pas qu'on n'ait pas demandé, mais en fait on ne s'y est pas intéressé avec Daniel. On se rend compte qu'on part pour une expédition, on connaît les grandes lignes, nous c'est notre objectif c'est de voir le Salar, donc le reste on ne s'y est pas trop intéressé. Là on voit bien qu'on est rentré encore dans un nouveau stade du voyage en Bolivie, où on est dans un pays où on ne parle que très peu la langue, mais on est en train de l'apprendre à force de pratiquer. On ne voyage qu'en bus avec ses aléas. On n'est jamais sûr de l'heure à laquelle on part, de l'heure à laquelle on arrive, des conditions dans lesquelles on voyage. Et puis là, on part pour 4 jours en expédition. Mais franchement, on n'en connaît pas trop le contenu. C'est vrai que prendre le temps, développer cette faculté de confiance dans les gens, d'intuition, c'est quelque chose qu'on expérimente
de manière de plus en plus intense et qui nous va bien d'ailleurs. On passe par l'agence de voyage pour récupérer du matériel, notamment des sacs de couchage, parce que nous, on a loué des sacs de couchage supplémentaires parce qu'on a vraiment peur d'avoir froid pendant notre périple. Et puis là, Milton nous demande si on est d'accord pour prendre une personne supplémentaire dans la voiture. Donc, c'est une jeune fille qui a 17 ans. Nous, on dit, bah, pourquoi pas. Elle s'appelle Sigrid. Elle est belge. Et en fait, on s'aperçoit un peu plus tard, une fois qu'on est parti, que Sigrid, elle est dans un groupe de jeunes qui est dans une autre voiture avec un autre guide, mais qu'ils étaient trop nombreux pour qu'elle puisse être dans la voiture. Donc, elle monte avec nous. Mais je sens que c'est un petit peu froid et je comprends que, bah, elle aurait voulu être avec le reste du groupe, qu'elle est à l'écart de ses copains. Et en même temps qu'elle tombe avec une famille avec 3 enfants, je pense que c'était pas trop son plan. Nous, on a dit oui parce qu'on est très ouvert. On se dit bah, c'est toujours sympa d'avoir une personne en plus avec nous. Et puis Milton nous a fait une réduction sur le prix parce que forcément, elle vient avec nous dans la voiture. Donc on se dit, bon, de toute façon, ça va forcément bien se passer. Avec du recul, on se dit que bah, c'était pas forcément une si bonne idée parce qu'on sait pas trop ce qu'ils se sont dit entre guides et avec Sigrid et l'autre groupe de jeunes. On sait pas ce qu'ils leur ont promis ou ce sur quoi ils se sont engagés, mais on comprend assez vite qu'elles pensaient passer beaucoup plus de temps avec le groupe de copains, mais en fait, les voitures ne se suivent pas systématiquement. On n'est pas forcément calé pile sur les mêmes horaires. Puis nous, on a 3 enfants à mobiliser, et alors qu'eux, c'est un groupe de jeunes, ils sont tout seuls à se gérer. Et voilà, Sigrid, elle n'est pas très contente. Elle en fait savoir au guide, et puis il y a une tension qui monte. Mais bon, honnêtement, ça rajoutera juste un petit peu de piquant dans l'expédition, et ça ne nous empêchera pas de passer un moment extra. Et d'ailleurs, ça commence tout de suite, quoi. On est en pleine immersion dans des paysages incroyables. Je crois qu'au bout de 20 minutes, on est déjà plongé dans un univers dingue. On est sur des pistes, hein. C'est fini la route bitumée. On est au milieu de nulle part. Et on fait des stops dans des paysages qui sont de plus en plus beaux. On s'arrête pour déjeuner dans un petit village paumé. Et puis on voit de près nos premiers lamas, ça c'est assez génial. On fait un stop dans un endroit incroyable qui est un site géologique où il y a des espèces de cathédrales, ils appellent ça des cathédrales faites en roche friable. On peut presque rentrer en dessous, lever la tête et voir la hauteur des grottes, c'est magnifique. On voit nos premiers vishkaskas qui sont des espèces de lapins avec des oreilles enroulées. Qui sont, et c'est assez gros, hein, qui sont un peu partout dans la campagne. Enfin, c'est sublime, et puis on assiste à un coucher de soleil absolument majestueux sur les montagnes, c'est hypnotisant. Et tout ça quand même en passant beaucoup de temps dans la voiture. Le premier jour, je pense qu'on passe à peu près 8 heures assis dans la voiture. Donc c'est vrai que c'est assez fatigant, mais c'est rattrapé par le paysage qui est incroyable. Tant que le soleil est là, on a chaud, on est bien au chaud dans la voiture, mais quand le soleil est couché, il commence à faire plus froid. Donc le soir, quand on arrive dans notre premier hôtel chez l'habitant, bah, on a vraiment très très froid et c'est pas là-dedans qu'on va se réchauffer. Il n'y a pas de poêle, il n'y a pas de cheminée, pas de chauffage dans les chambres. Nous, on dort dans une pièce où il y a 5 lits. On est dans un dortoir tous les 5. Donc après dîner, on se met sous des tonnes de couvertures. Et puis on essaye de dormir tant bien que mal. Bon, évidemment, on ne se douche même pas. De toute façon, c'est de l'eau froide. Donc Pour nous, il n'est pas question d'aller se doucher. En plus, les sanitaires sont un peu ouverts sur l'extérieur. Donc, rien que d'aller aux toilettes, ça nous gèle les fesses. Et donc, le lendemain, on repart assez tôt pour la prochaine journée d'itinérance.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode d'Un petit tour et puis changeons. Ça vous a plu ? Venez écouter l'épisode 29 sur la troisième partie de notre voyage en Bolivie. À bientôt !